Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pie X, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc nous allons continuer avec ce traité important, le traité du vice et des péchés. Prima seconde, question 71, jusqu'à la question 89. Ceci doit, ce texte est important pour nous aider à avoir les idées bien claires, pour soutenir notre catéchisme avec la doctrine de ce grand docteur qui était saint Thomas d'Aquin. Donc je continuerai bien sûr de vous donner, si Dieu veut, une conférence par semaine. Ce ne sera pas toujours un jour fixe. Mais il y en aura envoyé une par semaine, parfois un petit peu en avance, comme celle-ci, parce que quand j'ai un petit peu plus de temps, j'enregistre une conférence et je la place sur Internet. En moyenne, vous aurez une conférence par jour, par semaine. Je pense que c'est important, surtout pour ceux qui sont en vacances. Je vous conseille beaucoup, pendant vos temps de vacances, de travailler, hein, travailler votre catéchisme. Il n'y a pas de vacances pour le bon Dieu, donc pendant les grandes vacances d'été, donc travaillez votre catéchisme, reprenez éventuellement sur le site d'Ave Marie, donc le cours audio en 110 leçons sur le catéchisme, au moins les parties que vous connaissez mal ou moins bien. Et puis, retravailler aussi la somptologie de saint Thomas d'Aquin. Celui qui possède saint Thomas d'Aquin, il possède l'esprit d'Église. Alors, sur le polycopier, nous en sommes à la page 53. Donc, encore une fois, je m'arrête simplement au plus beau passage de saint Thomas d'Aquin, en espérant que cela vous donnera le désir d'aller par vous-même consulter la somme pour avoir le texte complet. Donc saint Thomas va nous parler donc de cette question 73. Dans cette question 73, du rapport des péchés et de leur gravité. Ce sont des rappels de catéchisme, mais très dogmatiques. Donc c'est important pour nous aider encore une fois à penser droit. N'oubliez pas que, encore une fois, le démon de la révolution travaille avec les intelligences. Pousser les gens à penser de travers. Le poisson pourrit d'abord par la tête, si la tête n'est pas bien faite, si l'intelligence ne fonctionne pas correctement, si l'intelligence ne reconnaît pas les premiers principes, surtout le principe de causalité, de non-contradiction, d'identité, etc. Et bien évidemment, l'intelligence deviendra plus ou moins incapable d'atteindre le vrai, c'est ce que les ennemis de l'Église veulent. Donc travaillez avec votre intelligence. Donc certainement on va se poser cette question. Dans l'article 1, prima seconde, question 73, article 1, donc première partie de la deuxième partie de la somme, tous les péchés et les vices sont-ils connexes? Alors il y a une distinction élémentaire à faire, les vertus sont connexes entre elles, mais pas les vices. Heureusement d'ailleurs, vous vous rendez compte, si quelqu'un avait un vice et que tous les vices étaient connectés entre eux, ça veut dire que une personne ayant un vice aurait tous les vices de la création, ce serait impossible. Donc les péchés ne sont pas connexes entre eux. Voilà donc ce que va expliquer saint Thomas d'Aquin. Donc les péchés, les vices ne sont pas connexes. Voilà le texte de saint Thomas. Les vertus se réunissant dans la droite raison pratique, dans la prudence, ont entre elles de la connexion. Mais l'intention du pécheur se porte vers des biens divers qui n'ont aucune connexion entre eux et parfois même son contraire. Que si les péchés tirent leur espèce de l'objet auquel ils se rapportent, Il est évident qu'ils n'ont point de connexion nécessaire entre eux pour ce qui constitue leur espèce commune. Hein? Donc les vertus sont connexes, mais pas les péchés. Ainsi, on peut dire que puisque les vertus sont connexes entre elles, ça veut dire que celui qui a une vertu les a la possibilité de les avoir toutes, eh bien, celui qui manque d'une seule vertu n'a pas les autres. C'est très important de comprendre ce principe, surtout dans les canonisations des saints. Lorsqu'une canonisation, que quelqu'un est sur le point d'être canonisé, lorsqu'il y a une étude totale, complète, de la vie d'un serviteur du bon Dieu, d'un béatifié, pour en faire un saint, qu'est-ce que va chercher à prouver l'avocat du diable? Vous savez que dans les procès des canonisations, une place très importante, c'est l'avocat du diable dans l'Église catholique. Dans l'Église conciliaire, c'est complètement disparu, évidemment. C'est pour ça qu'ils canonisent n'importe qui. Mais dans l'Église catholique, l'avocat du diable a un rôle très important. C'est celui qui essaie de prouver que dans la vie du saint qu'on étudie, il y avait une vertu qu'il ne pratiquait pas. Une vertu qu'il ne pratiquait pas. Et comme celui qui manque d'une seule vertu n'a pas les autres, s'il peut prouver que le saint en question, que la personne qui est canonisable manquait sérieusement d'une seule vertu, eh bien donc il n'avait pas les autres. Et à ce moment-là, pour cette canonisation, il était tout de suite arrêté. Voilà ce que dit Saint Thomas d'Aquin. Donc, de même que l'amour de Dieu qui édifie la cité de Dieu est le principe et la racine de toutes les vertus, de même l'amour de soi-même qui édifie la cité de Babylone est la racine de tous les péchés. C'est un texte qui reprend là un texte de Saint Augustin qui est très connu. Deux amours ont fait deux cités. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité terrestre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité céleste. Et c'est ici ce que dit Saint Thomas d'une autre façon. Donc l'amour de Dieu qui édifie la cité de Dieu, le principe et la racine de toutes les vertus. De même l'amour de soi. L'amour de soi, c'est quoi? C'est l'orgueil qui édifie la cité de Babylone. Babylone, l'étymologie du mot Babylone, c'est confusion, cité de la confusion, et la racine de tous les péchés. Donc n'oublions jamais cela. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ travaille dans une âme, notre Seigneur Jésus-Christ est toujours principe d'unité. Parce qu'au contraire, le démon travaille dans une âme, le démon est toujours principe de division. C'est pour ça que on retrouve la même idée dans l'exercice de Saint Ignace, dans la grande méditation sur les deux étendards. Donc il y a deux armées, l'armée du démon est précisément à Babylone, le même lieu que réutilise ici Saint Thomas d'Aquin, et au contraire, la cité céleste, l'armée du bon Dieu, elle est. L'armée du démon, donc, est à Babylone, et l'armée du bon Dieu est à Jérusalem. Jérusalem, ça veut dire vision de paix. Babylone, ça veut dire cité de la pagaille. Donc, ceci nous aide à comprendre que la racine, finalement, de tous les vices, c'est quoi? C'est l'amour de soi-même. L'amour de soi-même qui va jusqu'au mépris de Dieu. L'amour de soi-même qui va jusqu'au mépris de Dieu, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Hein? Au contraire, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, c'est la fondation de la cité du bien, de la cité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même, c'est la vertu d'humilité. Donc l'humilité est le terreau de toutes les vertus, de même que l'orgueil est le terreau de tous les vices. Alors, Saint Thomas fait bien remarquer que certains vices sont contraires entre eux. Il reprend cela un texte d'Aristote. Or, il est impossible que des contraires existent dans le même sujet. Il est donc impossible que tous les vices et les péchés soient en connexion. Donc, en gros, tous les vices vont tourner autour de trois axes, qui sont les trois concupiscences. Concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Donc, on a tous une faiblesse, ou des faiblesses, plusieurs faiblesses. Si vous voulez, une fissure dans la paroi de protection autour de notre âme. Vous savez que c'est Sainte Thérèse d'Avila qui compare l'âme à un château fort. Et donc le démon qui cherche à rentrer dans le château fort, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va tourner autour de l'âme pour essayer de trouver la fissure dans la paroi, de trouver la partie du rempart qui est plus faible. Et c'est par là qu'il va attaquer. Eh bien, c'est la même chose dans notre âme. Donc, notre âme, on a toujours souvent une faiblesse, soit c'est sur la concupiscence des yeux, soit c'est la concupiscence de la chair, soit c'est l'orgueil. Ça peut être deux concupiscences à la fois, et dans certains cas, malheureusement, les trois concupiscences à la fois. C'est pour cela que on peut avoir par exemple, des tentations très fortes dans un domaine, des faiblesses très fortes, par exemple la concupiscence des yeux. Hein, c'est tous les péchés qui vont dans le désir de tout avoir, de tout obtenir, de tout posséder, qui s'opposent donc à l'esprit de pauvreté. Il y a la concupiscence, au contraire, de la chair qui couvre tous les péchés d'impureté et l'orgueil de la vie. Donc il faut nous connaître, un des points les plus importants, et c'est un petit peu ce qu'essaie de nous dire ici Saint Thomas en fait indirectement, c'est qu'il faut connaître nos faiblesses, il faut connaître notre faiblesse. La connaissance de soi-même est vraiment la base de toute vie spirituelle. Saint Ignace de Loyola le disait à ses jésuites, connaissez-vous-même, connaissez-vous vous-même. C'est pour cela qu'il insistait tant sur l'examen particulier pour arriver à connaître ses propres faiblesses. Et donc on peut avoir... Ce que dit saint Thomas, il est impossible que tous les vices et les péchés soient inconnexes. Vous pouvez avoir des gens qui vont avoir des problèmes, par exemple, au niveau de la concupiscence des yeux, donc contre l'esprit de pauvreté, mais qui n'auront aucun problème dans le domaine, par exemple, de la chair. Au contraire, vous pouvez avoir des gens qui vont avoir de grosses difficultés dans le domaine de la concupiscence de la chair, mais qui n'auront aucun problème au niveau de l'orgueil, au niveau de la concupiscence des yeux. Et il peut y avoir des gens qui ont de gros problèmes au niveau de l'orgueil, qui n'ont pas de problème avec la chair ou avec les yeux. Bon, souvent, on peut dire que presque tout le temps, pas toujours, mais presque tout le temps, dès qu'il y a un vice qui apparaît dans une âme, quelque part, il y a l'orgueil qui est derrière, toujours. Parce qu'il est très difficile d'avoir un problème avec une des deux concupiscences, soit les yeux, soit la chair, sans avoir en même temps un problème d'orgueil. L'orgueil est vraiment la racine de tous les péchés. Donc s'il y a des difficultés fortes avec la concupiscence de la chair ou la concupiscence des yeux, en général, c'est qu'il y a l'orgueil. Donc pour enrayer les difficultés, les grosses tentations qu'on peut avoir au niveau des yeux, au niveau de la chair, soit dans le désir de tout posséder, soit dans tous les désirs charnel qui s'oppose au sixième ou neuvième commandement, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Très souvent, il faut attaquer indirectement le terreau de base, à savoir l'orgueil. Si on arrive à détruire l'orgueil et à remplacer l'orgueil par la vertu d'humilité, en ayant l'humilité dans l'âme, on va avoir ipso facto un moyen de lutte très fort contre la concupiscence de la chair. Et la concupiscence de la concupiscence des yeux. Et l'inverse est malheureusement vrai. C'est-à-dire que si l'orgueil est dans mon âme, eh bien, j'aurai forcément très vite de grosses tentations, ou au niveau de la chair, ou au niveau des yeux. Alors, saint Thomas va expliquer davantage. Donc, on est là toujours sur la page 53 du polycopier, qui est sur le site d'Anne-Marie. Donc, il vient d'expliquer que. Il est impossible que tous les vices et les péchés soient en connexion, alors que les vertus, elles, sont connexes. Donc tout homme, dit saint Thomas, qui agit par vertu, a l'intention de suivre la règle de la raison. Et c'est pourquoi l'intention de toutes les vertus tend à la même fin. Et c'est précisément parce que l'intention de toutes les vertus tend à la même fin qu'il y a une connexion entre les vertus. Ainsi, toutes les vertus sont-elles connexes entre elles dans la droite règle de l'action qui est la prudence. Donc la connexion qui existe entre les vertus va se faire par l'action de la vertu de prudence. C'est la vertu de prudence en quelque sorte qui va aider les vertus à travailler ensemble. Mais chez le pécheur, au contraire, l'intention n'est pas de s'écarter de ce qui est raisonnable, elle est plutôt de tendre à un bien désirable, et c'est bien ce qui la caractérise spécifiquement. C'est-à-dire que le pécheur va considérer que le péché devient pour lui un bien. C'est ça la folie du pécheur. C'est considérer que quelque chose qui est interdit par Dieu, pour lui, dans la pratique, concrètement, dans le cas qui nous regarde, eh bien, devient un bien. Hein? Alors, là, saint Thomas a une phrase un peu compliquée, mais qu'il faut bien comprendre. Voilà ce qu'il dit. Commettre le péché ne consiste donc pas en effet à passer de la multitude en unité, comme c'est le cas pour les vertus lorsqu'elles sont connexes, mais plutôt à s'éloigner de l'unité vers la multiplicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ rassemble, alors que le démon lui disperse. Une âme centrée sur notre Seigneur Jésus-Christ est une âme qui va utiliser toutes les puissances de son âme vers la même fin. Rappelez-vous ce que saint Thomas vient de dire, l'intention de toutes les vertus tend à la même fin. Parce que tous les hommes qui agissent par vertu ont l'intention de suivre la règle de la raison. Donc, ils ont la même fin. Et c'est cette fin qui fait l'unité. Donc, Dieu est principe d'unité. N'oublions pas qu'avant le péché originel, un des dons les plus importants que le bon Dieu avait donné à Adam et Ève, j'en ai souvent déjà parlé, c'est le don d'intégrité. Le don d'intégrité, c'est quoi? C'est justement ce principe d'unité. Tout étant uni, parce que l'ordre règne dans une âme qui est en état d'intégrité. Adam et Ève avaient cet état d'intégrité. L'intégrité fait que Dieu va diriger l'intelligence, l'intelligence superviser la raison, la volonté, pardon, et la volonté va superviser les passions. Et donc toutes les passions vont être réglées par l'usage de la volonté, et la volonté elle-même, étant éclairée par l'intelligence, va pouvoir monter vers le bon Dieu. Donc, Dieu et ses principes d'unité. Donc, quand on est en état de grâce, quand on suit notre Seigneur Jésus-Christ, quand on suit la véritable Église, eh bien, on a cette unité. On se retrouve un. C'est pour ça que l'Église catholique est une. Je crois en l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique. Mais cette unité, elle vient justement du fait que que l'intention de toutes les vertus dans l'Église catholique tend à la même fin. Cette même fin, c'est quoi? Cette même fin, c'est le salut éternel, donc le bon Dieu lui-même. Au contraire, le démon est principe de division. Hein. Et comment le démon est-il principe de division? Donc le Dieu est principe d'unité par le don d'intégrité. Et comme le don d'intégrité a disparu pour nous, puisque depuis le péché originel, il est perdu. Cependant, Dieu est principe d'unité par le don d'intégrité qui va travailler en nous d'une certaine façon par la grâce sanctifiante. Quand quelqu'un est en état de charité, quand il a la grâce sanctifiante en lui, donc il a ce principe d'unité, ce qui fait qu'il va vouloir connecter tout ce qu'il fait à notre Seigneur Jésus-Christ. Un catholique, c'est donc pas quelqu'un qui est catholique simplement le dimanche de 10h à 11h30. Un catholique, c'est quelqu'un qui est catholique toute la journée. Il est catholique dans sa formation familiale, dans l'éducation qu'il donne à ses enfants, dans ses rapports avec son épouse, avec son époux. Et il est catholique dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans le milieu social, partout. C'est ça qui est tellement difficile d'ailleurs à comprendre pour les jeunes. Beaucoup de jeunes ont un mal fou avec la foi catholique parce que justement ils se rendent compte que la foi catholique est une praxis, qu'il faut être catholique tout le temps. Alors beaucoup de gens veulent bien être catholiques le dimanche de 10h à 11h30, ça c'est 1h30, ça va, on peut faire cet effort-là, mais ils ne veulent pas être catholiques le reste du temps, ben non. Eh bien, de la même façon que si vous voulez, si quelqu'un, canonisable peut-être par l'Église, a dans sa vie une vertu qu'il n'a pas pratiquée, on arrête tout de suite le procès de canonisation. De la même façon, un catholique qui veut bien pratiquer toutes les vertus sauf une ou deux, c'est-à-dire qu'il vient suivre tous les commandements de Dieu sauf un ou deux parce que ces commandements-là le gênent, eh bien, en fin de compte, est quelqu'un qui va, dans la pratique, vivre comme un païen. Et c'est ça le drame, ça en touche vraiment quelque chose de très important, c'est que beaucoup trop de catholiques sont catholiques le dimanche et puis païens dans la journée. C'est surtout un problème énorme au début des vacances, avec ces grosses chaleurs d'été. Là, il faut faire très très attention, ne pas que ceux qui écoutent là, ce catéchisme, ce cours, se rendent compte qu'on est catholique, pas simplement quand il fait 20 degrés dehors, mais qu'on est aussi catholique quand il fait 45 degrés dehors. Vous voyez? Donc il ne faut pas dire bah, il fait trop chaud, donc je m'habille comme une prostituée ou je m'habille n'importe comment dehors parce qu'il fait très très chaud. Non, parce que même quand il fait 45 degrés, le bon Dieu doit être maître de ma vie. Donc le Dieu est principe d'unité par la grâce sanctifiante, donc qui nous ramène vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule Église. C'est pour ça que, quelle que soit la formation sociale que nous ayons pu recevoir, quel que soit le milieu social dont on vient, quel que soit le pays dont on vient, la culture dont on vient, si on est catholique, on se retrouve en unité, au diapason, avec tous les gens qui sont là, parce que justement, on a la même foi. Ça, je l'ai vu moi-même de façon extraordinaire dans les pays de mission, justement, où j'ai longtemps missionné à l'étranger. Eh bien, on le voit très bien. Pourtant, c'est des pays dont je parlais mal la langue, je connaissais mal la culture, mais je commençais la Sainte Messe, c'était la messe catholique. Tout le monde s'y retrouvait. Alors, je pouvais célébrer la Sainte Messe au Gabon, pardon, ou aux îles Fidji, ou au Népal, ou je sais pas trop où. Eh bien, c'était la même messe. On se retrouvait dans la même unité face à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si donc Dieu est principe d'unité, le démon, lui, je vous l'ai dit, est le principe de division. Et comment le démon est-il principe de division? Le démon est principe de division par le cadeau empoisonné qui est la liberté. Rappelez-vous ce qui a déjà été expliqué souvent. Cette pomme que notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu avait interdite à Adam et Ève, vous pourrez manger tous les fruits du jardin, mais vous ne pourrez pas toucher le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc la pomme du pommier, ce pommier extraordinaire qui est au centre du jardin d'Éden, eh bien, cette pomme qui a provoqué tant de dégâts dans l'âme d'Adam et Ève, et par conséquent dans chacune de nos âmes, cette pomme, pardon, c'était la liberté. La liberté est un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. Tant qu'on ne cherche pas à utiliser notre liberté pour renforcer le bon Dieu, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'à cause du péché originel, justement, la liberté pour nous devient de plus en plus le droit de faire ce que je veux. C'est la licence et puis la liberté. Donc il faut bien comprendre ça. Le principe de division, c'est la liberté. Et quelqu'un qui est vraiment libre, quelqu'un qui va trouver la totale liberté ici-bas sur la terre, c'est quelqu'un qui est sauvé d'obéissance. Parce qu'une fois qu'il est sauvé d'obéissance, bon, il n'y a plus de problème, il obéit et puis par son obéissance, il sera sauvé. Hein? Pourquoi cette phrase, même si c'est un peu compliqué, est importante, je la relis. Commettre le péché ne consiste pas à passer de la multitude à l'unité, comme c'est le cas pour les vertus lorsqu'elles sont connexes, mais plutôt à s'éloigner de l'unité vers la multiplicité. Or, tous les commandements de la loi n'ont qu'un seul et même auteur, et c'est ce même Dieu que l'on méprise en tout péché. Donc, quel que soit le péché que nous commettons, quelle que soit la concupiscence qui s'ouvre en nous, eh bien, que ce soit les yeux, que ce soit la chair, que ce soit l'orgueil, eh bien, c'est toujours le même Dieu qu'on offense. Alors, là, au milieu de la page 53, donc, j'ai mis toute une série de principes qui viennent de saint Thomas d'Aquin, sur lesquels j'insiste parce qu'ils sont extrêmement, extrêmement importants. Hein. Donc, saint Thomas va nous donner un certain nombre de principes pour nous permettre après de nous y retrouver un petit peu dans le catéchisme sur le péché. Donc, il explique que tous les péchés ne sont pas égaux. Il cite notre Seigneur Jésus-Christ répondant à Pilate, celui qui m'a livré à vous a commis un plus grand péché. Et après, il explique donc, c'est l'article 3 de la question 73 de la prima secondae, les objets, c'est-à-dire les fins qui nous sont propres. Que nous nous proposons étant ce qui donne l'espèce au péché, leur confère aussi leur première et principale gravité. Donc il va donner quelques exemples. Il dit par exemple que les péchés contre Dieu, tels que l'infidélité, le blasphème et les autres, sont bien plus graves que les péchés contre l'homme. Hein? Et ensuite il va expliquer que la haine de Dieu est le plus grave des péchés parce que c'est la charité la plus grande des vertus. Donc on va revoir ça un peu plus tard. Alors, voyons un petit peu ces principes qui sont simples, qu'il faut bien se mettre dans l'esprit. Premier principe, donc vous avez ça au milieu de la page 53 sur le polycopier. Premier principe, tout acte de péché ne détruit pas la vertu contraire. Bon. Un acte ne va pas détruire une vertu qui est un habitus. Bon, lorsqu'on a une vertu qui est une vertu acquise par la multiplication d'actes de vertu, un seul acte pécamineux ne va pas détruire évidemment cette vertu. Hein? Donc, tout acte de péché, péché grave, ne détruit pas la vertu contraire, même si un acte de péché grave détruit la vertu de charité. Deuxième principe. Le péché véniel ne détruit aucune vertu. Pourquoi? Parce que le péché véniel, ça veut dire. Véniel, c'est quelque chose qui est facilement pardonnable. Le péché véniel ne détruit pas la vertu de charité. Qu'est-ce qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ? Ce qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est précisément la vertu de charité. Donc, si tant que j'ai la vertu de charité, je suis uni à notre Seigneur Jésus-Christ. Or, le péché véniel ne détruit pas la charité. Même la multiplication des péchés véniels ne détruira jamais la vertu de charité. Le péché véniel, par contre, peut affaiblir d'une certaine façon la vertu de charité. On compare souvent, quand on explique ça aux enfants, on dit que comme un miroir. Bon, si le miroir est couvert de buée, on voit mal. On arrive à deviner ce qu'on voit sur le miroir, mais on voit mal. Pourquoi? Parce que la buée couvre le miroir et empêche l'image d'être nette. Ça, c'est le péché véniel. Au contraire, le péché mortel, c'est quoi? Le péché mortel, c'est faire tomber le miroir a tout cassé. Quand le miroir est cassé, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de miroir. Donc, premier principe. Tout acte de péché ne détruit pas la vertu contraire. Deuxième principe, le péché véniel ne détruit aucune vertu. Troisième principe, le péché mortel détruit la vertu infuse parce qu'il détourne de Dieu. Vertus infuses sont des dons gratuits de Dieu. Dieu donne directement à certaines personnes certaines vertus, ce qu'on appelle les vertus infuses. Ces vertus infuses dépendent directement, évidemment, de l'état de grâce. Quelqu'un qui est en état de grâce, qui a la vertu de charité, aura la couronne des vertus, donc il aura les vertus infuses. Au contraire, si on perd ce qui nous unit à notre Seigneur Jésus-Christ, si on perd la grâce sanctifiante par le péché mortel, évidemment, par voie de conséquence, perdant la grâce sanctifiante, eh bien, on va perdre évidemment toutes les vertus infuses. C'est ça le drame du péché. Il faut arriver à comprendre la gravité du péché. Le problème, c'est que quand on commet un péché grave, on dit que c'est saint Augustin, je crois, qui dit ça, que quand on commet un péché grave, quand le démon veut nous faire commettre un péché grave, il commence par nous ôter la honte du péché. Et puis une fois qu'on l'a commis, ce péché qui nous a fait perdre la grâce du bon Dieu, il nous remet la honte de ce péché sur les épaules, afin que nous n'allions pas accuser ce péché au confessionnal. Donc c'est le troisième principe, le péché mortel détruit les vertus infuses. Quatrième principe, un seul acte de péché mortel, même de péché mortel, ne détruit pas l'habitus de la vertu acquise. J'ai déjà dit, ça retourne là un petit peu au principe numéro 1, tout acte de péché ne détruit pas la vertu contraire, là on trouve la même chose sous une autre forme plus complète, un seul acte, même de péché mortel, ne détruit pas l'habitus de la vertu acquise. Pourquoi? Les habitudes demeurent. Les habitudes demeurent. C'est pas parce que vous êtes habitué à avoir, par exemple, vous avez travaillé sur votre tempérament et vous êtes devenu un homme doux de nature. Bon. Et puis, c'est pas parce qu'une fois, pendant des circonstances exceptionnelles, à cause de certains faits très particuliers, vous sortez de vos gonds, vous mettez en colère. C'est pas parce que vous êtes mis en colère une fois, ce qui est pas fréquent chez vous, ça ne veut pas dire qu'à cause de cette colère dont vous êtes responsable, ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, l'habitude de la douceur va disparaître chez vous. C'est un accident, on reprend immédiatement le bon chemin par la confession. Donc un seul acte de péché mortel ne détruit pas l'habitude même de la vertu acquise. N'oubliez pas que la vertu, c'est l'habitude, si vous voulez, de la vertu de choses bonnes. Habitus operativus bonus, donc l'habitude d'œuvrer dans le bien. Cinquième principe. Si les actes se multiplient au point d'engendrer un habitus contraire, l'habitus de la vertu acquise est éliminé. Ça veut dire que si je laisse, même si j'ai une vertu acquise, donc un habitus de vertu acquise, une habitude en mon âme, mais que je laisse le vice contraire, non pas tomber de temps en temps sur moi par un acte isolé de ce péché, mais qu'au contraire, je laisse les péchés contraires à cette vertu se multiplier de plus en plus, et bien petit à petit, je vais créer une habitude du vice contraire à la vertu, à l'habitus de la vertu acquise, et petit à petit, bien, malheureusement, ce vice va finir par détruire l'habitude de la vertu acquise. Et cette habitude va être éliminée. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, professionnel, c'est un devoir du prêtre, de faire très attention, surtout à l'égard des péchés graves, de vérifier si c'est un acte isolé ou si c'est une habitude. Et c'est surtout très important, notamment sur certains péchés contre la justice, par exemple, aussi des péchés comme, par exemple, les péchés de... Si quelqu'un s'accuse de confessionnal, c'est un exemple bien sûr que je donne, si quelqu'un s'accuse de confessionnal de s'être enivré, bon, je pense qu'il faut que le prêtre vérifie est-ce que c'est quelque chose d'habituel, cette personne qui se confesse à moi, ou est-ce qu'au contraire c'est un accident. Donc il va lui poser la question délicatement, en disant est-ce que ça vous arrive souvent, genre le péché bon nombre, sur la bœuf, moi ça ne m'était pas arrivé depuis des années, en principe je ne suis pas du tout un ivrogne, mais là j'étais avec des copains, on a trop bu, je n'ai pas fait attention, c'est chaud, et puis je me suis fait un peu avoir par le vin, et puis du coup je me suis enivré, mais ce n'est pas quelque chose d'habituel. Bon, d'accord. Donc l'habitude de sobriété n'est pas détruite. Si au contraire la personne me dit, ben oui monsieur l'abbé, parce que j'ai des mauvais amis, et puis ces mauvais amis me poussent à boire, et maintenant ça fait des années que je bois, pourtant avant j'avais l'habitude de la sobriété, mais maintenant je suis en train de le perdre, ben évidemment, parce que la multiplicité d'actes contraires à l'habitude de sobriété va finir par faire disparaître cette vertu de sobriété. Donc, c'est numéro 5, si les actes se multiplient au point d'engendrer un habitus contraire, l'habitus de la vertu acquise est ainsi éliminé. Sixième principe. Avec cette habitude, de la vertu acquise est éliminée aussi la vertu de prudence. Car lorsqu'un homme agit contre une vertu quelconque, il agit contre la prudence. N'oubliez pas que cette connexion des vertus est faite par la vertu de prudence. Hein? Recta ratio agibilium, la droite raison dans l'agir. Hein? Toutes les vertus cardinales, par exemple, les vertus morales aussi, sont unies entre elles par la vertu de prudence. Hein? Si cette vertu de prudence disparaît, eh bien, il est évident que les autres vertus, les habitudes des vertus acquises vont aussi disparaître. Donc, si je laisse, je répète donc ce que dit saint Thomas d'Aquin, si je laisse, si j'élimine la vertu acquise par la multiplication d'actes contraires à cette vertu, j'introduis un vice, si vous voulez, dans mon âme, et bien la vertu de prudence va disparaître. C'est un peu l'exemple du jardinier, donc il va arracher ses mauvaises herbes tous les jours il passe dans son jardin, puis il arrache les mauvaises herbes. C'est facile parce que la mauvaise herbe, elle a poussé pendant la nuit, donc elle fait 1 ou 2 cm, et puis c'est tout, c'est vite arrachable. Au contraire, s'il est fatigué, qu'il dit, oh, bon, je vais y aller une fois par mois, bah, alors c'est impossible parce qu'il va revenir après un mois de paresse, sans s'être occupé de son jardin, et bien son jardin va être envahi par les mauvaises herbes, et puis les mauvaises herbes, ben, elles vont atteindre 30 cm, et il y aura beaucoup plus de mal, beaucoup plus de travail pour tout remettre en état. Imaginez un jardinier donc qui tombe malade et qui pendant 6 mois ne peut pas revenir travailler sur son jardin. Il revient au bout de 6 mois, mais c'est la forêt vierge. Et là, il faut pratiquement tirer comme un sourd sur les grandes mauvaises herbes parce qu'elles sont devenues des petits arbrisseaux, c'est très difficile à arracher. Et donc attention à ça. Enfin, dernier principe, sans la vertu de prudence, aucune vertu morale ne peut exister, justement à cause de ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire la connexion qui existe entre les vertus. S'il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de vertu. Donc, avec la prudence, si la prudence est exclue d'une âme, eh bien, toutes les autres vertus morales vont être aussi exclues du Saint-Thomas. Du moins, quand c'était cette existence parfaite et formelle de vertu qu'elle possède en participant de la prudence. Donc il va rester encore, si vous voulez, une tendance à la vertu, mais cette tendance va être de plus en plus faible. C'est ce que saint Thomas appelle, en d'autres endroits, des vertus informes. Une vertu informe, c'est ça, une vertu qui n'est plus formée par la charité. Alors vous avez la foi, l'espérance, par exemple, la foi et l'espérance demeurent même après un péché mortel, simplement si. Le problème, c'est que si on multiplie les péchés mortels, et bien petit à petit, cette foi et cette espérance vont devenir de plus en plus faibles. On sent encore des vertus, strictement parlant, mais il manque quelque chose. C'est des vertus qui sont des vertus moribondes. Donc il va rester simplement, dit saint Thomas, des inclinations aux actes vertueux, lesquels n'ont pas formellement raison de vertu. Voilà le danger, justement, de laisser certains péché rentrer rentrer dans nos âmes. Lorsqu'on laisse certains péchés rentrer dans nos âmes, bien évidemment, avec ce péché, bien, il y a des tas de conséquences qui vont arriver. Une des conséquences les plus importantes, c'est qu'évidemment, la vertu de prudence va finir par disparaître. Hein. Alors, saint Thomas reprend ensuite, donc c'est trois paragraphes, quatre paragraphes avant la fin, le bas de la page 53 dans le polycopier. Donc saint Thomas nous avait déjà dit que le Dieu est principe d'unité et que le démon, au contraire, est au principe de division. Donc il va revenir là-dessus. Voilà ce qu'il dit. L'amour de Dieu rassemble les affections humaines en les ramenant du multiple à l'un. Et c'est pour cela que les vertus causées par l'amour de Dieu sont en connexion les unes avec les autres. Donc toutes les vertus ont pour but, ont la même fin, à savoir l'amour du bon Dieu. Hein? Au contraire, nous dit saint Thomas, l'amour de soi-même, l'amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu, l'amour de soi-même disperse les affections humaines dans la diversité. Car en s'aimant lui-même, l'homme recherche pour lui les biens de ce monde qui sont variés et divers. C'est pourquoi les vices et les péchés que cause l'amour de soi ne sont pas connexes. Hein? Donc les fins sont diverses. Selon les péchés, selon les vertus qui sont attaquées par certains péchés, les fins ne sont pas exactement les mêmes. Et donc il n'y a pas de connexion entre les différents péchés. Hein? Donc ça, il faut bien comprendre ce principe dont j'ai déjà parlé, donc je n'y reviens pas. Donc Dieu est toujours principe d'unité, le démon est toujours principe de division. Et on le voit parfois dans les familles, dans les écoles aussi, c'est très visible, parfois des éléments dans l'école, soit les professeurs, soit les élèves, qui sont principe d'unité. Et au contraire, des éléments qui sont malheureusement, soit les élèves, soit les professeurs, qui sont principe de division, parce qu'ils n'ont pas un bon esprit. Ça, dans une école, un mauvais esprit dans une école fait par certains professeurs ou par certains élèves peut donner des résultats catastrophiques parce que justement la division va intervenir. Et dès qu'une société, un corps intermédiaire est divisé contre lui-même, qu'il y a des divisions à l'intérieur même de ce corps intermédiaire, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de force. Hein. C'est comme une muraille qui est en train de s'écrouler parce qu'il n'y a plus de liant, il n'y a plus de ciment qui va lier les pierres entre elles. Donc, nous dit saint Thomas, ceux qui contiennent un plus grand désordre, les péchés qui contiennent un plus grand désordre sont plus illicites que les autres et par conséquence plus graves. Il y a connexion entre les vertus, mais non entre les vices et les péchés. Il répète la même chose, justement, parce que il y a connexion entre les vertus. Pourquoi? Parce que toutes les vertus regardent, si vous voulez, la même vérité, savoir notre Seigneur Jésus-Christ. On peut comparer ça un petit peu à un diamant. Un diamant qui a 350 ou 400 facettes, ben, toutes ces facettes donnent une lumière différente du diamant, une beauté différente du diamant, mais elles centrent le regard toujours vers le même diamant, la même lumière intérieure qui vient du diamant lui-même. Et cette lumière intérieure, spirituellement parlant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous dit saint Thomas, il faut donc qu'un péché soit d'autant plus grave qu'il porte des ordres sur un principe de plus grande importance dans le gouvernement de la raison. Voilà pourquoi le péché est d'autant plus grave qu'il provient dans les actes humains d'une fin plus élevée. Et saint Thomas va expliquer, donc c'est en question 73, article 4, il pose la question, les péchés diffèrent-ils de gravité suivant les vertus auxquelles ils sont contraires? Il va répondre, la haine de Dieu est le plus grave des péchés, parce que la charité est la plus grande des vertus. La haine de Dieu s'attaque directement à la charité. Ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de nos fidèles ont du mal à comprendre. Tous les commandements de Dieu, je vous l'ai déjà dit, mais tous les commandements de Dieu ne sont pas au même niveau. C'est pour ça que Dieu a donné des commandements sur deux tables différentes. Sur la première table de la loi, il a mis les commandements 1, 2 et 3. Sur la deuxième table, il a mis les commandements 4 à 10. Les commandements 4 à 10 ont le prochain pour objet, nous comporter correctement avec le prochain, alors que les commandements 1 à 3 ont Dieu directement pour objet. Donc un péché contre le premier, deuxième et troisième commandement est bien plus grave qu'un péché contre le quatrième ou le dixième commandement. Donc en soi, un blasphème par exemple, ou le mépris de la messe qui s'oppose au commandement de la première loi sont plus graves littéralement que tuer quelqu'un ou de voler une somme importante. Parce qu'on n'est plus dans le matériel, on est dans l'amour de Dieu lui-même, qu'on détruit directement. Alors, dernier paragraphe de la page 53. Et voilà ce que dit saint Thomas. C'est pourquoi le péché qui s'attaque à la substance même de l'homme, par exemple l'homicide, est plus grave que celui qui s'attaque au bien extérieur comme le vol. Et plus grave encore est le péché qui est commis immédiatement contre Dieu comme l'infidélité, le blasphème. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une espèce de hiérarchie dans les péchés. Tout en haut, les péchés les plus graves sont les péchés qui s'attaquent directement à Dieu. Deuxième étape, les péchés qui s'attaquent à la substance même de l'homme. Troisièmement, les péchés qui s'attaquent au bien extérieur appartenant à l'homme, par exemple le vol. Et donc, là, une phrase magnifique de saint Thomas en bas de la page 53 du Polycopier. La conversion illégitime à un bien périssable engendre l'aversion du bien périssable en laquelle s'accomplit la raison de mal. N'oubliez pas que. Je vous l'ai déjà dit au début de ce cours sur le péché. La définition du péché dans saint Thomas, c'est conversio ad creaturas, aversio ad Deo. Aversio ad Deo, conversio ad creaturas. Se détourner de Dieu pour lui préférer la créature. Donc il dit que la conversion illégitime, c'est la deuxième partie, donc la conversion illégitime à un bien périssable engendre l'aversion du bien périssable en laquelle s'accomplit. La raison de mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conversion à un faux Dieu entraîne l'aversion envers le vrai Dieu. C'est pour ça que le mot important, c'est illégitime. Donc, il n'y a pas de péché, dans certains cas, de se convertir à un bien périssable sous la protection de la raison. D'accord? Mais, lorsque le bien périssable s'oppose à la loi du bon Dieu, ça devient une conversion illégitime. Donc, l'aversion du bien impérissable, c'est-à-dire l'aversion de Dieu, se détourner de Dieu, entraîne la conversion à un bien périssable. Un bien périssable de façon illégitime. Rappelez-vous ce que j'expliquais tout à fait au début. Dans chaque péché grave, il y a la malice d'un péché d'idolâtrie. C'est-à-dire, je demande au bon Dieu de quitter ma maison. Ça, c'est aversio ad Deo, se détourner de Dieu. Et par la même porte que vient d'utiliser notre Seigneur pour quitter mon âme, je fais rentrer un faux Dieu qui va prendre la place du vrai Dieu. Alors ça peut être une bouteille d'alcool, ça peut être de l'argent, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être un peu n'importe qui, et qui va prendre la place du bon Dieu. Donc, conclusion de saint Thomas, en bas de la page 53 et en haut de la page 54 du Polycopier, c'est pourquoi il faut que la diversité des choses auxquelles on s'attache entraîne une gravité différente dans la malice du péché. Et là, il conclut en disant la haine de Dieu, laquelle est bien le plus grave de tous les péchés. Pourquoi? Parce que la haine de Dieu va détruire directement l'essence même de Dieu dans notre âme, à savoir la vertu de charité. La vertu de charité, la vertu de charité qui saute. Donc saint Thomas pose la question, les péchés diffèrent-ils de gravité suivant les vertus auxquelles ils sont contraires? Donc il cite saint Aristote, oui, car ce qu'il y a de pire est contraire à ce qu'il y a de meilleur. La haine de Dieu est donc le plus grave des péchés parce que la charité est la plus grande des vertus. Donc la haine de Dieu détruit la plus grande des vertus, à savoir la vertu de charité. Alors, nous allons maintenant commencer la question, toujours la même question, dans Prima Secondae, question 73, mais article 5 du coup, les péchés de la chair impliquent-ils moins de culpabilité que les péchés de l'esprit? C'est une distinction qui est en soi extrêmement importante. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Donc, je vous lis un résumé de l'article, ensuite on expliquera. Alors, voilà ce que dit saint Thomas. Les péchés charnels, ici saint Grégoire, le pape saint Grégoire, les péchés charnels sont moins coupables, cependant plus honteux que les péchés spirituels. Les péchés de la chair ont en effet moins de gravité que ceux de l'esprit. Non pas que tout péché charnel soit moins grand que tout péché spirituel, mais toutes choses égales d'ailleurs, ceux de l'esprit sont plus graves. On en donne trois raisons. La première se tire du sujet. Les péchés spirituels appartiennent à l'esprit, dont le propre est de s'élever à Dieu, de s'en éloigner. Les péchés de la chair se consomment dans l'appétit sensuel, auquel il appartient de se tourner vers les biens corporels. J'expliquerai après. Ceux-ci ont donc pour cause le rapprochement vers les créatures auxquelles les penchants de notre nature nous portent si puissamment. Cela tient davantage de l'éloignement de Dieu et de l'aversion qui constitue la nature même du péché. Et dans le péché, il y a deux choses. D'une part, on s'éloigne de Dieu, d'autre part, on se rapproche de la créature, on change de Dieu en quelque sorte. Deuxième raison, c'est prendre l'objet. Pourquoi? Parce que les péchés charnels, considérés comme tels, se commettent contre le corps. Or, le corps, dans l'ordre de la charité, doit être moins aimé que Dieu et que le prochain qui sont offensés dans les péchés spirituels. Et la troisième raison se déduit de la cause. Plus est puissante l'impulsion qui porte à pécher, moins on pêche. Or, les péchés charnels ont pour cause la concupiscence de la chair que chaque homme apporte en naissant. Dernière preuve, que les péchés spirituels sont plus graves que les autres péchés. Donc, on va expliquer un petit peu ça, un petit peu que ça en détail. Donc, pour résumer, saint Thomas nous explique que les péchés de la chair inspirent plus de honte que les péchés spirituels. Je vous ai dit, le démon ne commet jamais les péchés de la chair, puisque c'est un pur esprit. Et donc, il va les faire commettre aux hommes. Il n'a que mépris pour ces péchés-là qu'il ne commet lui-même jamais. Par contre, le démon est capable de commettre des péchés épouvantables en matière d'esprit. C'est l'orgueil qui est à la racine de tous les péchés du démon. Alors, il explique après, l'adultère, par exemple, est plus grave que le vol, parce qu'il renferme non seulement un péché de luxure, mais encore un péché d'injustice. L'homme tient plus à sa femme qu'à ses biens. Le démon se réjouit surtout des péchés de luxure. Pourquoi? Parce que les hommes s'y attachent avec ardeur et les quittent difficilement. Le désir de ces jouissances, dit Aristote, est insatiable. Les péchés charnels sont donc plus honteux que les autres, sans doute, mais c'est précisément parce que les actes de la concupiscence participent moins de la raison. Aristote disait à ce propos, il est plus honteux de s'abandonner à la concupiscence qu'à la colère, car les péchés de l'homme intempérant ont pour objet les jouissances qui nous sont communes avec les brutes, les brutes des animaux. Et voilà pourquoi il le couvre d'opprobre. En s'y livrant, on se rapproche effectivement des animaux et on devient en quelque sorte une brute comme eux. Alors, détaillons un petit peu les choses. Donc, vous avez cela expliqué. Page 54, donc, je reprends les textes de saint Thomas. Je vous l'ai déjà dit, j'ai préparé ce polycopier en faisant du copier-coller, en prenant les textes les plus importants de l'article en question et en les mettant bout à bout. Et puis, j'essaie de vous expliquer le lien entre ces différents textes. Donc, Saint Grégoire le Grand affirme que les péchés de la chair sont moins coupables et plus infamants que ceux de l'esprit. Les péchés spirituels sont plus coupables que les péchés charnels. Pourquoi? Parce que l'âme est au-dessus du corps. Donc, les péchés spirituels sont plus coupables que les péchés de l'âme sont plus coupables que les péchés du corps. Les péchés spirituels sont plus graves que les péchés matériels, que les péchés qui ont pour objet directement le corps. Hein. Cependant, ce que va expliquer Saint Thomas, il y a une honte particulière, malheureusement, dans tous les péchés de la chair. Et parfois, on oublie justement, en considérant que les péchés de la chair, on oublie parfois que les péchés de l'intelligence sont bien plus graves. Un péché d'orgueil est en soi bien, bien plus grave qu'un péché d'adultère. Et c'est très important parce qu'on oublie trop ces choses. On oublie beaucoup trop ces choses-là. J'avais remarqué, surtout quand je prêchais les Ignatius Saint-Ignace, bon, j'avais remarqué que beaucoup de gens, des jeunes surtout, même des moins jeunes, ont tendance, quand ils se confessent, ils préparent une confession générale, ils examinent en long, en large et en travers tous les péchés contre la pureté. Ils ont l'impression que ce sont les seuls péchés dont ils sont vraiment coupables. Ils oublient de constater et de remarquer que les péchés d'orgueil sont bien plus graves. Et donc on s'attaque à fond contre les péchés de la pureté avec raison, d'ailleurs, puis on oublie que l'orgueil est en soi bien plus grave parce que ce sont des péchés spirituels. Hein. Alors voilà ce que dit donc Saint Grégoire. Saint Thomas répète ce que dit Saint Grégoire. Donc je répète, les péchés de la chair sont moins coupables et plus infamants que ceux de l'esprit. Les péchés spirituels sont plus coupables que les péchés charnels. Cela ne veut pas dire que n'importe lequel des premiers soit plus coupable que n'importe lequel des seconds, mais que toutes choses égales d'ailleurs, si on considère uniquement cette différence de l'esprit et de la chair, les péchés de l'esprit sont plus graves. Pourquoi? Parce que les péchés de l'esprit regardent beaucoup plus le détournement de Dieu, l'aversion à Dieu. Alors qu'au contraire, les péchés qui ont pour objet la chair, les péchés donc plus matériels, plus physiques, regardent surtout la conversion ad creaturas. Donc il y a deux choses dans le péché, rappelez-vous, j'ai expliqué, se détourner de Dieu, première chose, deuxième chose, pour se tourner vers la créature. Mais ces deux choses ne sont pas au même niveau. Il est bien plus grave de se détourner de Dieu que de se convertir à la créature. C'est bien plus grave de mettre le bon Dieu dehors de ma maison pour le péché mortel que je dirais, de me tourner vers la créature. Donc les péchés spirituels sont plus graves que les péchés charnels. Donc saint Thomas va donc reprendre cela. Donc, deuxième paragraphe de l'article 3 de la question 73, page 54, ce polycopier. Donc, il analyse les raisons pour lesquelles les péchés de l'esprit sont plus graves que les péchés de la chair. Première raison, dit-il. À cause du sujet du péché. Les péchés spirituels relèvent de l'esprit, par lequel on se tourne vers Dieu, par lequel aussi on se détourne de lui. Au contraire, les péchés charnels se concentrent dans les plaisirs de l'appétit sensible, auquel il appartient surtout de s'attacher aux biens corporels. Bien sûr, les biens spirituels sont au-dessus des biens corporels. C'est pourquoi le péché charnel en tant que tel représente plus de conversio ad creatura, c'est-à-dire de conversion vers la créature, et à cause de cela aussi plus d'attachement aux choses matérielles. Mais le péché spirituel comporte plus de cette aversio ad Deo, c'est-à-dire se détourner de Dieu, de procès de la raison de faute. Et c'est pourquoi le péché spirituel, comme tel, est une faute plus grande. Donc, se détourner de Dieu, c'est plus grave que se tourner vers la créature. Et il y a les deux choses dans le péché mortel. C'est pour ça que saint Thomas d'Aquin définit de façon merveilleuse le péché en disant c'est l'aversio ad Deo d'abord. Il ne dit pas c'est la conversio ad creatura, puis l'aversio ad Deo. Il dit non, il dit c'est d'abord se détourner de Dieu, aversio ad Deo, puis cela entraîne conversio ad creatura, on se tourne vers la créature. Nous, on aurait peut-être voulu définir le péché en disant c'est se tourner vers la créature, puis se détourner de Dieu. Non, c'est l'inverse. D'abord, on se détourne de Dieu en mettant dehors, en laissant la porte ouverte. Deuxièmement, on se tourne vers la créature à la place de Dieu. Donc, le sujet du péché, si vous voulez, le sujet du péché spirituel est plus important que le sujet du péché matériel. Troisième raison à cause, celui contre qui l'on pêche. C'est le cas. Le péché de la chair, en tant que tel, offense le corps, lequel n'est pas à aimer dans l'ordre de la charité, autant que Dieu et le prochain, qui sont offensés par les péchés de l'esprit. C'est pourquoi ceux-ci, comme tels, sont plus coupables. Donc les péchés qui vont contre des choses plus élevées sont plus graves que les péchés qui vont contre des choses moins élevées. Donc l'âme est au-dessus du corps. Donc les péchés qui s'attaquent à l'âme, substance de l'âme, sont plus graves que les péchés qui s'attaquent au corps. Troisième raison pour lesquelles les péchés d'esprit sont plus graves que les péchés de la chair, à cause du motif, dit saint Thomas. Plus l'homme est fortement poussé à pécher, moins il pêche gravement. C'est-à-dire plus les tentations extérieures sont fortes, plus, et je dirais, non pas que l'homme a une excuse, mais plus il, si vous voulez, plus la volonté va être poussée au péché. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus grave de commettre un péché grave avec une tentation faible que de commettre le même péché grave avec une tentation forte. Quand quelqu'un s'accuse, par exemple, au confessionnal, moi j'en parle souvent, quand quelqu'un s'accuse au confessionnal d'une faute grave, je vais lui demander, poser la question, mais est-ce que vous avez lutté contre cette tentation? Si la personne me dit, ben non, je n'ai pas du tout lutté, je suis tombé dans le péché tout de suite. Bon, alors ça c'est vraiment embêtant, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il faut vraiment qu'il travaille là-dessus. Par contre, si la personne me dit, bien écoutez, vous savez, oui, j'ai lutté pendant 3 jours contre cette tentation, c'est une tentation lancinante qui revenait tout le temps, c'était une espèce d'obsession de boire, par exemple, ou obsession de prendre de la drogue, ou je ne sais quoi, et j'ai lutté pendant 3 jours, je ne dormais pas, mais je luttais quand même. J'ai prié, j'ai dit mes chapelets, j'ai prié sur mes genoux pour essayer de lutter contre cette tentation. Au bout de 3 jours, je suis tombé. Est-ce que c'est toujours un péché mortel? Oui, c'est un péché mortel, mais ce qu'on appelle un péché mortel de faiblesse, ce n'est pas un péché mortel de malice. Donc, au contraire, celui qui tombe sans lutte du tout, qui tombe tout de suite, sans même chercher à lutter contre la tentation, ça peut être beaucoup plus facilement ce qu'on appelle un péché mortel de malice. Le péché mortel de malice est bien plus grave qu'un péché mortel de faiblesse. Un péché mortel de faiblesse est beaucoup plus facilement pardonnable qu'un péché mortel de malice. C'est pour ça que le péché mortel de malice, en général, correspond à un vice, alors que le péché de faiblesse correspond à un accident, si vous voulez, ça ne va pas du tout détruire l'habitus de la vertu, on a déjà expliqué. C'est pour ça que saint Thomas donc nous explique, saint Thomas donc nous explique que plus est puissante l'impulsion qui porte à pécher, moins on pêche, parce que on a lutté contre une armée plus nombreuse. Bon, imaginez une petite armée de 100 soldats qui se bat contre une armée de 50 soldats et qu'elle perde le combat. Eh bien, elle est vraiment, vraiment à plaindre parce qu'elle avait plus d'hommes que l'armée adverse, elle aurait pu gagner. Bon, imaginez une armée de 100 soldats qui se bat contre une autre armée de 100 soldats aussi. Bon, le combat est plus égal, mais c'est toujours triste de perdre. Et par contre, imaginez une armée de 100 soldats qui se bat contre une énorme armée de 10 000 soldats. Et qui tient le siège pendant des jours, des semaines et des semaines, qui finalement finit par être dépassé par le nombre. Il y a des dizaines de milliers de soldats dans l'armée adverse, évidemment, ils finissent par être renversés. Eh bien, ces 100 soldats qui ont lutté pendant des semaines et des semaines contre 10 000 soldats sont des héros, en fait. Pourquoi? Parce que malgré leur chute, malgré le fait qu'ils soient tombés, sont des héros parce qu'ils ont lutté contre la tentation de découragement pendant une période bien plus grande. Hein. Alors, le dernier paragraphe de cette question 73, article 5. Alors, attends, je m'y retrouve là, que je ne dise pas de bêtises. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes avant le bas de la page 54. Donc, voilà ce que dit saint Thomas. Si, dit-on, le diable se réjouit extrêmement de la luxure, c'est que dans ce péché, l'attachement est extrême, car il est difficile à l'homme de s'y arracher. Ce sont des tentations très fortes. car l'appétit de jouir, dit Aristote, est insatiable. Et c'est pour cela qu'il dit aussi que les péchés d'intempérance sont les plus exécrables, parce qu'ils ont pour objet des plaisirs qui nous sont communs avec les bêtes, et que tels péchés font de l'homme une brute, un animal. Donc ces fautes sont plus infamantes. Donc surtout aujourd'hui, et surtout en été, dans le monde moderne, c'est certain que ces péchés de ces tentations de luxure, ces tentations de péché d'impureté contre le sixième et neuvième commandement peuvent être devenir très facilement des obsessions à cause de la façon de s'habiller malheureusement des femmes dans la rue. Et donc il faut par tous les moyens éviter les occasions de péché, surtout les plages, les piscines publiques et les choses comme ça, parce que sinon c'est pratiquement impossible pour les jeunes et les moins jeunes de lutter contre ces tentations-là. Alors, on nuit, donc c'est ce que dit saint Thomas, donc on nuit davantage à quelqu'un en le privant de la vie de la grâce qu'en le privant de la vie de la nature. Hein, parce que la vie de la grâce est meilleure que la vie naturelle. Tellement qu'on doit mépriser celle-ci pour ne pas perdre celle-là. Personne ne meurt spirituellement si ce n'est en péchant volontairement lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la protection de l'âme est bien plus importante que la protection du corps. Je dis souvent aux gens que si les gens faisaient pour leurs âmes le même travail qu'ils font pour préserver leur corps, ils seraient tous des saints depuis longtemps. Si les hommes faisaient en matière spirituelle les mêmes sacrifices qu'ils font en matière physique, en matière matérielle, en matière mondaine, si vous voulez, ils seraient des saints depuis longtemps. Voir par exemple ce qu'on soit capable de faire certains hommes, certaines femmes, simplement pour perdre du poids. Ils se trouvent trop gros dans la glace, ils ont décidé de perdre du poids, mais ils sont capables de faire des jeûnes absolument invraisemblables, de flageller leur corps littéralement, tout ça pour perdre du poids, pour avoir une silhouette de guêpe. Et imaginez que ce que je dis souvent aux gens, mais si je vous demandais la moitié de ça en début de carême, vous seriez des cris de putois. Alors vous êtes capable de le faire pour le corps, vous n'êtes pas capable de le faire pour l'âme. Qu'est-ce qui est plus important? Les biens de l'âme ou les biens du corps? C'est justement tout le travail de la Révolution de faire croire aux gens que les biens du corps sont plus importants que les biens de l'âme. Donc on va couvrir le corps de choses matérielles pour qu'il n'y ait plus le temps de s'occuper des choses spirituelles. Donc personne, conclusion de saint Thomas, personne ne meurt spirituellement si ce n'est en péchant volontairement lui-même. Alors, donc je reprends cette phrase qui est très importante. On nuit davantage à quelqu'un en le privant de la vie de la grâce qu'en le privant de la vie de la nature. Et quand on détruit l'âme, c'est bien plus grave que de détruire son corps. C'est pour ça que les anciens, ils préféraient se flageller jusqu'au sang plutôt que de tomber dans un seul péché d'impureté, un seul péché mortel, justement. Donc ils réduisaient, comme dit saint Paul, leur corps en servitude pour justement ne pas être tentés par le démon. Faut bien comprendre aussi qu'un des péchés les plus graves qui se puissent commettre, et là, c'est le péché de scandale, parce que c'est le péché non seulement par lequel je détruis ma propre âme, mais aussi je détruis l'âme du prochain. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit, malheur par qui le scandale arrive, il vaudrait mieux pour vous d'être attaché à une meule de moulin par une corde autour de votre cou et jeté dans la mer plutôt que d'avoir commis un péché de scandale. Donc attention à ce péché, parce que ce péché est tellement grave, parce que justement, il est tellement difficile. De le réparer. Enfin, dernière phrase, saint Thomas va revenir là-dessus dans l'article 10 cette question 73. Le péché devient plus grave par le fait qu'il est commis envers une personne plus unie à Dieu, soit par sa vertu, soit par ses fonctions. Donc on va voir que une attaque contre un homme qui a des responsabilités civiles ou sociales ou religieuses importantes, une attaque contre une personne de ce genre est plus grave qu'une attaque contre une personne qui n'a pas de responsabilité. De la même façon, une personne qui est plus élevée dans l'ordre social, dans l'ordre civil, dans l'ordre religieux, a plus d'obligation de pratiquer la vertu qu'une personne qui est en bas de l'échelle. Alors, rapidement, je vais résumer donc les différents articles là qu'on va passer rapidement, et la prochaine fois, si Dieu veut, donc on s'attaquera à l'article 10 de la question 73. C'est une question dans laquelle il y a importante, il y a 10 articles. Le péché est-il aggravé par la haute situation du pécheur? Donc c'est une question très importante. Alors, rapidement, voilà ce que dit saint Thomas entre le péché. Je vais vous résumer donc les articles entre le depuis l'article 6 jusqu'à l'article 9 de la question 73. Donc, saint Thomas pose la question, la cause d'un péché influe-t-elle sur sa gravité? Et voilà ce qu'il dit. Les autres causes du péché sont... Il y a pour le péché deux sortes de causes. D'abord une cause propre et directe, qui est la volonté même. Et puis des causes extérieures, éloignées. Elles comprennent tout ce qui porte la volonté à faire le mal. Et il donne certains exemples. Telles sont celles, par exemple, qui comme l'ignorance diminuent le jugement de la raison. Et celles qui comme la faiblesse, la violence, la crainte affaiblissent le libre arbitre. Elles atténuent le péché dans la même mesure qu'elles amoindrissent le volontaire. Si bien que si une action n'est pas libre, le péché n'existe pas. Si on fait quelque chose contre sa volonté, ou qu'on est complètement dormi, qu'on ne sait pas ce qu'on fait, il n'y a pas de péché. Alors, il est évident, dit saint Thomas, que certaines circonstances vont aggraver le péché. Soit parce que cette aggravation se produit en transportant la chose à un autre genre, par exemple l'adultère, qui est elle-même la même action que la fornication, mais l'adultère est plus grave que la fornication, parce que l'adultère est en plus un péché contre la justice. L'aggrave ensuite, non en changeant son espèce, mais en l'étendant à un plus grand nombre d'objets. Enfin, elle l'aggrave en augmentant la difformité d'une circonstance précédente. Par exemple, pas la même chose de voler un pauvre et voler un riche, ou de voler une petite somme ou de voler une grosse somme. Donc, il se pose aussi la question de savoir si la gravité du péché s'augmente suivant la quantité de dommages causés. Et la réponse, évidemment, est oui. Voilà l'exemple qu'il donne. Lorsque le libertin commet publiquement un acte honteux, le scandale qui s'ensuit, en supposant même qu'il ne soit ni prévu ni voulu, augmente directement son péché. On verra tout ça davantage la prochaine fois. Et donc, là, on retrouve la... Si vous voulez, ce qui nous amène à l'article 10. Donc l'article 10, c'est le péché s'aggrave-t-il par la grandeur de la personne qui pêche. Donc c'est préparé par l'article 9. La condition de la personne offensée aggrave-t-elle le péché? Donc, un petit peu ce que dit saint Thomas d'Aquin. L'Écriture reprend tout spécialement les péchés commis contre les serviteurs de Dieu, contre les parents, contre les personnes constituées en dignité. Il y a toutes les personnes, péché contre quelqu'un qui a charge d'âme est plus grave qu'un péché contre quelqu'un qui n'a pas charge d'âme. C'est qu'en effet, la personne contre laquelle on pêche, qui est en quelque manière l'objet du péché. Ensuite, il explique l'outrage fait à une personne qui est unie à Dieu par la vertu ou par la consécration spéciale, le prêtre, rejaillit car sur Dieu lui-même proportionnellement à cette union. Celui qui vous touche me touche à la prunelle de l'œil, cite Zacharie chapitre 2. Ensuite, nous péchons plus grièvement contre nous-mêmes, dès que la personne que nous offensons nous est unie par les liens du sang, de la reconnaissance et d'une autre manière. Celui qui est méchant pour lui-même, nous dit l'Esprit-Saint, pour qui sera-t-il bon? Enfin, on pêche d'autant plus grièvement que l'on blesse un plus grand nombre d'individus. C'est pourquoi le péché contre les personnes publiques, par exemple contre un souverain qui représente tout un peuple, a une gravité spéciale. Comme le marquent ces paroles du livre de l'Exode, vous ne maudirez pas le prince de votre nation. Donc on verra ensuite, on reprendra un petit peu tout ça, pour bien comprendre l'article 10 dont on parlera la prochaine fois. Le péché est-il aggravé par la haute situation du pécheur, ou la haute situation de la personne contre qui on pêche. Donc l'article 9 et 10 donc vont se relier. C'est pour ça que saint Thomas prépare l'article 10 par l'article 9 pour bien expliquer. Donc je reprends que les péchés commis contre les personnes en dignité, constituées en dignité, sont plus graves que les péchés que les péchés commis contre les personnes qui ne sont pas en dignité. Que des péchés commis contre une personne qui a une consécration spéciale à Dieu est proportionnellement plus grave que la même offense faite à quelqu'un qui n'est pas consacré. En fait, il précise, je reprends ce qu'il a dit, donc le péché est plus grave quand nous offensons quelqu'un qui nous est uni par les liens du sang, la reconnaissance d'une autre manière. Et enfin, le péché est plus grave si on blesse un plus grand nombre de personnes. Si on scandalise 100 personnes, c'est plus grave que si on scandalise une personne. Donc la prochaine fois, ce sera Bon, j'essaie encore une fois de mettre un cours par semaine en moyenne, hein. Donc ça, c'est cours qui correspondra déjà à la semaine suivante. Donc je l'indiquerai à une date un peu différente de la date à laquelle j'ai fait le cours lui-même. J'ai enregistré le cours lui-même pour que vous ayez vraiment un cours par semaine pour pouvoir travailler sur ce cours pendant les vacances. Donc on va terminer par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.